Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat consacré ce soir au télétravail. À l'ordre du jour ce soir, télétravail, la régulation est-elle impossible? Les négociations entre partenaires sociaux sur le travail à distance qui doivent se clore le 23 novembre prochain semblent ou semblaient jusqu'alors difficiles entre syndicats de salariés et organisations patronales. Il faut dire que l'essor du télétravail lors du confinement de printemps, puis son redémarrage récent avec la demande gouvernementale de le généraliser à 100% pour tous les postes télétravaillables, rendent compliquées ces discussions. Elles doivent en effet à la fois tenir compte de la crise actuelle, bien évidemment, mais aussi imaginer des règles pour une période plus normale dans le futur. Qu'est-ce qu'être télétravaillable? Comment gérer des collectifs de travail quand une partie importante des salariés se trouve chacun chez soi? Comment respecter la vie privée des employés? Et comment ne pas les contrôler à distance? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités, avec Aïcha Goudiaby, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice des ressources humaines au laboratoire pharmaceutique Septodon dans l'Île-de-France. Vous êtes pilote du comité des DRH du club des entreprises de taille intermédiaire pour l'Île-de-France. Avec nous également Pascal Lokiek, il est professeur de droit à l'université de Paris à Panthéon-Sorbonne. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président également de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale et co-auteur avec Éric Heyer et avec Dominique Méda de « Une autre voie est possible vers un modèle social écologique » chez Flammarion qui a été réédité récemment cette année. Et avec nous, Éric Pérez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général EFO Cadre, vous avez participé à la négociation et vous y étiez encore il y a un instant, justement, ces négociations autour du télétravail. La responsable donc de ces négociations pour EFO, c'est Béatrice Clic, qui est secrétaire confédérale. Vous nous en parlerez dans un instant.
La règle qui est inscrite maintenant dans le protocole national, c'est que toutes les tâches qui peuvent être faites à distance doivent être télétravaillées. Si 100% de vos tâches peuvent être faites à distance, vous devez être 5 jours sur 5 en télétravail. Si un salarié considère que son entreprise ne permet pas de télétravailler alors que c'est possible sur son poste, on peut solliciter l'inspection du travail qui est là pour conseiller, pour accompagner, mais qui peut aussi contrôler et mettre en demeure si c'est nécessaire.
Le développement du télétravail, le stop and go sur le télétravail, la faiblesse du télétravail dans certains cas, trop de télétravail dans d'autres parce que les choses ne sont pas binaires, eh bien, ça crée une forte lassitude. On le voit avec l'augmentation des arrêts maladie longue durée. On a un patronat qui voudrait pouvoir développer le télétravail sans l'encadrer. Et il faut l'encadrer. Qu'est-ce qui est télétravaillable ou pas? Comment on mesure la charge de travail? Comment on s'assure de bonnes conditions de réalisation de ce travail?
Voilà, vous l'avez reconnu, il s'agissait d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, suivie du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. C'était hier pour Laurent Berger sur France Inter. Bonsoir donc à vous trois, Aïcha Goudiaby, Pascal Lokiek et avec vous Éric Pérez. Éric Pérez, vous étiez encore en négociation à l'instant même. On a dit la semaine dernière, oh là là, voilà des négociations qui vont peut-être capoter. Il y a eu des menaces, des façons de bander ses muscles pour pouvoir se dire, eh bien peut-être ça ne va pas aboutir jusqu'au 23 novembre, date théoriquement de la fin de ces discussions entre syndicats et organisations patronales. Où en est-on? Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant, Éric Pérez?
Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que la négociation continue. Hein. Elle est...
Ah, on a un petit problème avec vous, ça vient juste de couper. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Dès quelques fois, ça redémarre. Visiblement, vous êtes parti. Bien, écoutez, on va entendre dans un instant votre commentaire sur ces négociations qui sont en train de se dérouler. Pas de chance, je comptais sur vous pour pouvoir nous dire où elles en étaient, mais on y reviendra avec vous. Pascal Lokiek, vous qui surveillez ces discussions en tant que spécialiste de questions de droit du travail et de sécurité sociale, est-ce que vous pensez qu'elles sont bien parties telles qu'on les entendait la semaine dernière? Comme je le disais, c'était un peu difficile. Est-ce que vous pensez qu'il y a nécessité à négocier maintenant, justement, sur ces questions de télétravail? Ou est-ce qu'il aurait fallu mieux attendre peut-être un peu plus tard, sortir de la crise dans laquelle nous sommes pour pouvoir le faire?
Alors, je n'ai aucune information particulière sur le déroulé des négociations. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il est absolument nécessaire de revoir le cadre juridique. On a un cadre juridique qui date de 2005. Mmh. Et en 2005, on avait à peu près 7% du télétravail. C'était quelque chose qui était absolument rare, voire rarissime. Et on ne va pas vers une normalité, mais c'est quelque chose qui va
se généraliser.
Se développer. Voilà, peut-être pas se généraliser. On voit qu'il y a une certaine réticence, notamment du côté des entreprises, pour des raisons de protection des données, pour des raisons de productivité. Mais oui, c'est quelque chose qui va probablement se développer, même si la pandémie, ce qu'on peut tous espérer, s'arrête.
Oui, Éric Pérez, vous êtes revenu avec nous. Donc, vous étiez bien parti pour nous dire quel était l'état des négociations. Allez-y.
Oui, non, je disais tout simplement, nous avons un texte aujourd'hui qui nous est proposé par le patronat, un texte de 15 pages, à partir duquel on commence à faire nos propositions. Il y a 9 parties qui essayent de couvrir l'ensemble, je dirais, de ce qu'on appelle le recours au télétravail, les modalités de recours au télétravail. Bon, il y a des points sur lesquels on va sans doute peut-être avoir quelques petites difficultés, mais bon, pas de nature, me semble-t-il, à ce qu'on ne puisse pas avoir un accord interprofessionnel sur ce sujet.
C'est important. C'est important, parce que ça veut dire que oui. Si vous ne parveniez pas à un accord interprofessionnel, c'était le gouvernement qui reprenait la main d'une certaine façon.
C'était tout à fait. D'ailleurs, c'est un des points que nous avons souligné au patronat. On leur a dit, c'est d'abord utile pour les salariés et les entreprises parce qu'elles ont besoin aussi d'un cadre clair et précis. Il faut encadrer le télétravail. C'est une modalité d'organisation du travail. Il faut l'encadrer, il faut le négocier. Il ne s'agit pas de rentrer dans la granularité des points qui est plutôt propre à l'entreprise, mais assurer un cadre clair des grands principes. Mmh. C'est nécessaire. Si nous ne le faisons pas, nous laissons la main au gouvernement pour légiférer. Or, c'est là où on peut montrer effectivement que le dialogue social est efficace. Et ça a été dit dans votre reportage. On a depuis le début de l'année, enfin depuis le confinement, 600 accords avenants au contrat concernant le télétravail. Donc ce qui était au départ très flou, parce que c'était très confus, en 2005 j'ai connu ça, où les entreprises ne faisaient pas trop la promotion du télétravail, ne l'encadraient pas, c'était assez opaque, c'était assez du gré à gré, ben là il s'agit de mettre un cadre clair, précis, de manière à ce que dans les entreprises on puisse aller beaucoup plus loin, et notamment dans les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément non plus les moyens juridiques ou la capacité en termes de dialogue de pouvoir avoir des bons accords. Ouais. Donc c'est nécessaire, parce que ce n'est pas évident de mettre en œuvre le télétravail, et on le voit aujourd'hui dans la situation que nous vivons, qui n'est d'ailleurs pas du télétravail, c'est vraiment un contre-exemple.
Hein. Oui, bien sûr, on va en discuter justement de toutes ces nuances selon les périodes autour de la question du télétravail. Aïcha Boudiaby, vous êtes directrice des ressources humaines pour un laboratoire pharmaceutique en Ile-de-France. Vous avez fait une petite enquête auprès de vos collègues DRH dans ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire francilienne. Qu'est-ce qu'il en ressortait de cette enquête après la période de télétravail assez intense qu'on a pu connaître pour le premier confinement et donc pendant l'été? Qu'est-ce que disaient vos collègues DRH de cette question?
Oui, effectivement, c'est une étude qui est extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'avoir une vue précise des pratiques en matière de télétravail au sein des ETI franciliennes et elle permettait en même temps de pouvoir recueillir l'avis de ces professionnels RH sur l'avenir du télétravail dans leurs organisations. Mmh. Donc il y a plusieurs enseignements qu'on a pu tirer dans le cadre de cette enquête. Le premier des enseignements, c'est que le télétravail constitue une pratique établie dans la majorité des entreprises de taille intermédiaire. Elles sont 48% d'entre elles.
C'est combien d'employés une entreprise de taille intermédiaire exactement ?
À une entreprise de taille intermédiaire, il s'agit d'une entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés. Mmh. Et qui réalise un chiffre d'affaires qui n'excède pas 1,5 milliard d'euros.
D'accord. Donc dans ces entreprises, c'est donc généralisé dans le sens où il est pratiqué ce télétravail, mais après quel est le niveau du télétravail dans ces entreprises tel que vous avez pu le constater auprès de vos collègues des RH ?
Alors, le niveau est assez variable. Certaines ETI ont une maturité sur le recours au télétravail. D'autres ont profité de la mise en place du télétravail et de son recours intégral pendant cette première période de confinement pour pouvoir justement le formaliser soit dans le cadre d'un avenant, soit dans le cadre d'une charte et le rendre un petit peu plus institutionnel dans leurs organisations. Mais ce qui est très intéressant avec les ETI, c'est que finalement, elles n'ont pas découvert le télétravail dans le cadre de la crise. C'est déjà quelque chose qui avait été mis en place précédemment et qui répondait justement à des enjeux complètement différents des enjeux sanitaires qu'on connaît aujourd'hui, qui sont davantage orientés sur des enjeux de qualité de vie au travail, de recrutement et de demande de collaborateurs.
Et Pascal Loquiec, vous disiez tout à l'heure au tout début de cette émission qu'effectivement c'était la question du cadre juridique qu'il fallait discuter, puisque ce cadre datait de 2005, comme on l'a dit depuis le début en votre compagnie et en celle d'Éric Pérez, et qu'il fallait donc le rénover, parce qu'entre 2005 et maintenant, bien évidemment, beaucoup de choses ont changé.
Oui, effectivement. Alors peut-être, je peux peut-être rappeler très très rapidement pour vos auditeurs le cadre juridique, parce qu'il y a vraiment des points importants à comprendre dans le contexte actuel. D'abord, le salarié ne peut pas imposer à son employeur d'être en télétravail.
Mais l'employeur ne peut pas l'imposer non plus.
Alors, voilà. Alors, le salarié ne peut pas l'imposer. Par contre, et c'est à mon avis un point essentiel dans les négociations, l'employeur doit justifier son refus du télétravail. Mmh. Et le texte ne dit absolument rien sur les raisons. Effectivement, comme vous venez de le dire, l'employeur ne peut pas l'imposer non plus, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, nous dit le texte.
Et nous sommes en cas de circonstances exceptionnelles.
Voilà. Voilà, avec un notamment, et le notamment cite les épidémies. Et dans cette hypothèse-là, on a un cadre qui est probablement inadapté, parce que là, on a un télétravail contraint. Si vous voulez, tout le dispositif de 2005, il a été conçu sur un télétravail volontaire, avec l'accord des deux parties. Et là, on est aujourd'hui dans un dispositif contraint. Et ça n'est pas la même chose pour un salarié, évidemment, que de subir le télétravail, y compris en termes d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Il ne l'a pas accepté, il ne l'a pas prévu, il ne l'a pas organisé. Donc voilà, ça c'est l'un des points qui, parmi d'autres, doit être revu. Il y en a d'autres. Hein. Par exemple,
allez-y. Oui.
Par exemple, la question de l'indemnisation du salarié, de la prise en charge de son équipement, n'est pas du tout clairement réglée par les textes. Hein, qui doit prendre en charge, bon, pour ce qui est des frais professionnels stricts, c'est clairement l'employeur, mais au-delà, il peut y avoir d'autres éléments. La prise en compte des risques psychosociaux, on a vu avec le premier confinement, qu'être en télétravail pour quelqu'un qui est tout seul dans son appartement sans famille, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Hein. On a des salariés qui ont vécu des situations extrêmement, extrêmement difficiles. Moi, j'ai le cas pour mes étudiants à l'université, et c'était pas pour les salariés. Donc, voilà, il y a tout un tas de questions qui étaient latentes il y a en 2005, mais qui aujourd'hui sont vraiment en face de nous et qu'il faut absolument traiter.
Éric Pérez, vous avez participé, vous étiez, je crois, leader de ces négociations pour EFO en 2005. Effectivement, ce qui a changé aussi, c'est par exemple la question de la surveillance à distance des ordinateurs. J'imagine que ce n'était pas possible ou pas imaginé comme tel dans la négociation de 2005, mais on sait aujourd'hui que par tout un tas de moyens d'espionnage qui sont quasiment légaux d'ailleurs, eh bien on peut vérifier ce que l'employé fait sur son ordinateur, la manière dont il travaille, le temps de travail qu'il a sur son ordinateur, etc., etc. Tout cela, c'est ce qu'il faut faire re-rentrer dans une nouvelle négociation autour de la question du télétravail, Éric Pérez, entre autres.
Alors, c'est un point effectivement qui est important, puisque vous l'avez cité par rapport aux outils de surveillance qui sont aujourd'hui, certes, peut-être en vente libre, mais dont l'usage et la pratique est interdite ou en tout cas encadré. Et on a vu que, notamment dans les pays anglo-saxons, il y a un article du Guardian ou de Forbes qui montre que 70% d'augmentation de vente de ces outils pendant le confinement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous télétravaillez à domicile ou dans un autre lieu, qui dit télétravail, dit travail à distance, mais dit aussi contrôle à distance. Et donc, quand on a des entreprises dont le management n'est pas habitué, n'a pas une culture du management à distance, vous avez effectivement des risques et des dérives de vouloir contrôler. Parce qu'on a en France aussi une mauvaise habitude de considérer que si je ne vois pas mon salarié, si je ne le contrôle pas in visu, c'est que quelque part, il ne fait pas grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'il y a un risque. Alors, ça fait partie des sujets, effectivement, qui n'étaient pas traités en 2005 et qui doivent être traités aujourd'hui dans le cadre de cet accord. Et c'est pour ça qu'on avance sur à la fois la protection des données à caractère personnel. Je ne sais pas si je suis toujours en ligne.
Oui, vous y êtes toujours. Je vous écoute. Tout va très bien. C'est normal que vous ayez peur de ne plus l'être, mais allez-y.
Et oui, parce que j'entends. Donc, c'est la question de la protection des données à caractère personnel, d'une manière générale. C'est la question aussi de la cybersécurité. C'est la question de ce qu'on appelle le BYOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser son propre outil personnel. Si c'est le cas, eh bien, il faudra être extrêmement vigilant pour éviter de télécharger telle ou telle application. C'est pour ça que nous, on préconise que ce soit plutôt le matériel qui soit mis à disposition par l'employeur et que celui-ci soit effectivement, à ce moment-là, conforme à des règles de sécurité. Donc ça, c'est un point important. La sécurité d'une part et les modalités de contrôle. Et il faut absolument proscrire, par exemple, l'utilisation des keyloggers. Alors, il y a des situations...
Keyloggers, c'est justement ça. Ce sont des logiciels de contrôle de ce que fait l'employé. Quels sont les points sur lesquels, sans y insister, parce que vous dites que c'est le secret de la négociation, Éric Pérez, mais quels sont les points sur lesquels il y a des désaccords assez forts pour peut-être un jour faire capoter cette discussion et cette négociation sur le télétravail. Et quels sont les points sur lesquels vous pouvez vous entendre? Je donnerai ensuite la parole à Aïcha Goudiabi, donc DRH et responsable d'un comité DRH pour les entreprises de taille intermédiaire pour l'Île-de-France.
le vrai désaccord.
Ce que disait Pascal Lokiec, c'est-à-dire ou ce que vous disiez sur la volonté de contrôler ce que font les salariés, de ne pas être, faire confiance.
Je pense qu'il y a sur ce point, il y a plus ou moins un consensus. Puis en même temps, il y a un cadre. Il y a le RGPD, il y a la loi informatique et liberté, il y a des textes, il y a le code du travail. Donc il y a des éléments. Cependant, il faut créer de la confiance. Nous, on souhaite qu'il y ait un management par la confiance dans le télétravail, et non pas par la surveillance. On pourra avancer sur ce sujet. Mais il y a des points, par exemple, c'est la prise en charge des frais, ça a été dit par Pascal Lukiec. Même s'il y a un consensus aujourd'hui, alors il y a la question de l'URSSAF, de savoir si c'est un forfait, ou il y a la question des frais professionnels.
Il y a des questions toutes bêtes aussi d'accident du travail. Si on a un accident du travail chez soi, par exemple, qu'est-ce qui se passe ?
L'accident du travail, tout à fait. Alors là, il y a un point, puisque on peut très bien imaginer que dans certaines situations, l'employeur va vouloir peut-être revoir le caractère, je dirais, du constat de l'accident par des définitions. Disons, si je suis en télétravail, c'est comme si j'étais dans l'entreprise. Donc, à partir de là, s'il y a un accident de travail chez moi, eh bien, ça vaut comme un accident du travail dans le bureau. Pour le patronat, ce n'est pas forcément vu comme cela. Donc, le risque serait effectivement d'une volonté de vouloir revoir les textes pour assouplir éventuellement ce point. À part ce point, celui sur les frais professionnels, le risque pour pour nous, c'est de se trouver face à un patronat qui ne veuille pas donner du sens à l'accord national interprofessionnel, parce qu'il craint effectivement que l'accord vienne corseter d'une certaine manière la possibilité de négocier dans l'entreprise.
Oui, donc c'est pas le cas. On voit bien la différence effectivement entre volonté de négocier quasiment cas par cas pour beaucoup d'entreprises et de ne pas avoir un accord national. Effectivement, c'est extrêmement important. Aïcha Goutiami, qu'est-ce que vous en dites? Cette volonté de contrôle, vous êtes donc DRH, cette volonté de contrôle des salariés, est-ce que vous êtes prêts les uns ou les autres dans des entreprises de taille intermédiaire ou dans d'autres entreprises à lâcher un peu justement sur ce contrôle du salarié tel qu'il peut être pratiqué à l'intérieur d'une entreprise, mais là en l'occurrence il sera chez lui. Quelles sont ces questions telles qu'elles sont, elles ont été énoncées par Éric Pérez sur lesquelles il y a des discussions possibles?
Oui, je pense que la question du contrôle n'est même pas une question. À titre personnel et dans le cadre de mon environnement professionnel, je préfère parler de suivi que de contrôle de l'activité de mes collaborateurs. Et ça vient mettre en lumière la nécessité de pouvoir adapter le management, les pratiques managériales, mais également pouvoir fournir aux collaborateurs les conditions optimales d'un bon télétravail. Je pense
c'est parfait de le dire, mais est-ce que c'est facile à faire? On sait qu'il y a des pratiques de management qui sont disons plus dans le contrôle que dans le suivi, comme vous êtes en train de le dire, Aïcha Goutiami.
Tout à fait, et ça n'est pas simple à mettre en œuvre. Par contre, ça nécessite de pouvoir revoir le rôle du manager. Je pense qu'il va falloir réussir la transformation durable du rôle du manager pour qu'il puisse justement s'adapter à un environnement de télétravail, tout comme il va falloir revoir le rôle et le rapport au travail de nos collaborateurs pour qu'ils puissent aussi s'adapter aux environnements de travail à domicile.
Ce qui est compliqué, Pascal Lokiec, ce que l'on voit, c'est la diversité des situations. Et on voit bien que beaucoup d'entreprises très variées les unes les autres, représentées par des grandes organisations patronales. Il faut rappeler effectivement que le mouvement des entreprises de taille intermédiaire n'est pas dans ces négociations. Mais que beaucoup d'autres le sont, n'ont pas envie d'un cadre contraignant qui soit un cadre national, comme le disait à l'instant Éric Pérez.
Tout à fait. Les entreprises sont plutôt favorables à un cadre qui est négocié dans l'entreprise, donc les accords d'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir sur le télétravail, c'est que ça va au-delà, parce que, et c'est une mode qui malheureusement se développe, on a la possibilité de mettre le télétravail en place dans l'entreprise par une charte. Donc on peut tout à fait imaginer qu'en effet, les entreprises sont assez favorables au recours à la charte. C'est quelque chose qui est extrêmement souple et c'est quelque chose qui suppose simplement une consultation du comité social et économique, c'est-à-dire ce qui a remplacé le comité d'entreprise. Si je peux me permettre, je voudrais revenir sur cette question du contrôle, parce que je crois que c'est effectivement une question fondamentale. La relation de travail en France a été traditionnellement conçue sur la notion de subordination, qui est d'ailleurs encore le critère juridique pour reconnaître un contrat de travail. Or, les télétravailleurs ne rentrent pas dans cette idée de subordination. Ils sont plus sous autonomie contrôlée. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à appréhender en France, ce qu'on fait encore très mal, l'idée qu'un salarié peut être autonome. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire rentrer cette idée d'autonomie dans le salariat, je pense qu'on aura du mal à concevoir toutes ces questions de télétravail. Parce que quelqu'un qui est autonome, par exemple, il va moins travailler en termes d'horaire de travail. Il aura des objectifs. Donc, par exemple, il faut arriver à des co-déterminations des objectifs entre les salariés et les employeurs. Donc, c'est toute une philosophie de la relation de travail qui est perturbée par ce développement du télétravail.
Merci beaucoup. Vous êtes en train d'écouter le temps du débat, le temps du débat qui s'interroge sur les négociations actuelles autour de la question du télétravail. Qu'est-ce qui est télétravaillable? Comment mettre en place ce télétravail en sortant de la crise que nous sommes en train de connaître? C'est le thème de cette émission. On se retrouve dans un instant après Annie Cordy.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Quel est l'engin qui met l'ambiance? Au bar, au bahut, au bureau. Dans les villages et villes de France, qui met comme Mario un air de fête et de vacances, qui nous redonne en permanence la pêche et le punch au boulot, la machine à café. C'est ça qui fait kiffer. Dis-moi quelle est la fée. Café, café, la machine à café. Sans répit, sans repos, elle offre aux assoiffés une petite tasse de bonheur tout chaud. Oh, oh, la machine à café. Qu'elle soit dans une maison de retraite, dans une fac ou un studio, elle est là, elle est toujours prête et nous sert aussitôt l'express, le noir ou la noisette. Elle ranime la muse du poète et l'énergie du ramolo, la machine à café.
Annie Cordy, la machine à café, effectivement, on s'intéresse beaucoup à ces questions de télétravail dans cette émission, mais aussi on sait combien des sociétés, comme les sociétés qui s'occupent de la restauration collective, sont en difficulté, justement par l'essor de ce télétravail. Que deviennent les cantines d'entreprise? C'est une grande question, mais aussi on pourrait se poser la question de ceux et celles qui fournissent les machines à café dans les entreprises. Il y a aussi dans le télétravail cette question du rapport des salariés entre eux, des groupes de salariés, la façon dont ils forment des communautés de travail. C'est une question que se posent à la fois les employeurs et les syndicats donc qui représentent les employés, Éric Pérez.
Oui, alors pour dire les choses simplement, en 2005, quand on a débuté la négociation, faut comprendre le contexte à l'époque, c'était une transposition de la directive européenne. D'une manière générale, y compris mon organisation, parler de télétravail, c'était la possibilité de remettre en cause le collectif de travail. Mmh. C'était de porter atteinte au collectif de travail. Ce n'était pas faux. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Hein. Le télétravail est plutôt subi, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de salariés qui veulent revenir dans l'entreprise parce que vous avez besoin de cette interaction humaine. En 2005, c'était la situation. Aujourd'hui, on comprend très vite que, y compris le MEDEF, parle de la nécessité d'assurer la cohésion collective dans l'entreprise. C'est-à-dire que lui aussi craint effectivement que les salariés ne reviennent pas, pour dire les choses simplement, dans l'entreprise. Pourquoi ? Ben, parce que en 2005 et jusqu'à ce qu'on connaisse cette situation de crise, le télétravail n'était pas aussi bien encadré que ça. Il y avait des règles, certes, mais c'était quelque chose de gré à gré. Et c'était surtout, comme disait Pascal Lepied, surtout des salariés qui bénéficiaient d'une grande autonomie. C'était les cadres. Or, pendant la situation de télétravail, vous avez eu des salariés qui ne sont pas cadres et qui se sont dit « mais pourquoi moi aussi je ne pourrais pas télétravailler ?» Et dès lors, dans le cadre du dialogue social, il y a eu la nécessité de revoir et de moderniser ces accords dans l'entreprise.
Bien sûr.
Et donc, vous avez des salariés qui ont dit bah, « moi aussi je souhaite pouvoir télétravailler et je souhaite en effet bénéficier de cette modalité d'organisation du travail. » Car il s'agit d'une modalité d'organisation du travail avant toute chose. Hein. Et donc, ça a beaucoup changé, mais reste quand même un point fondamental, c'est que si vous ne négociez pas le télétravail et que vous le négociez dans le cadre qui est celui que nous subissons, qui est un télétravail dégradé, il y a une dimension de proportionnalité qui est grave, c'est que vous allez avoir du télétravail à 100%, on va dire 5 jours sur 5, qui n'est pas tenable. Oui. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dès lors que vous dépassez 2 jours et demi par semaine, bah vous avez des rendements décroissants et surtout vous avez des risques en termes de santé. Mmh. Et c'est un point de vue qui est d'ailleurs partagé également par le patronat. Oui. Donc c'est pourquoi il faut absolument qu'on s'entende sur le projet du télétravail dans l'entreprise. Pourquoi c'est faire? Si c'est un projet partagé, ça peut être effectivement très bénéfique pour l'entreprise et pour les salariés, équilibre vie privée professionnelle. Il faut qu'il soit adapté et bien proportionné. Il ne s'agit pas d'avoir un télétravail à 100%, 4 jours, 5 jours. Il faut qu'il soit pendulaire, il faut qu'il y ait du retour d'entreprise. Et donc c'est avant tout une autre façon de travailler, mais pas de manière permanente. Et puis il faut surtout que ce soit loyal. Il ne faut pas que ça se fasse effectivement de gré à gré. Il faut qu'il y ait des accords écrits, il faut que quelque chose soit formalisé par un accord. Donc c'est ça ouais. Le but de cette négociation.
Aïcha Goudiaby, vous n'êtes pas dans cette négociation, mais néanmoins... Vous avez peut-être un avis justement sur ce qu'il faudrait faire dans des négociations. Vous êtes directrice de RH d'un laboratoire pharmaceutique en région parisienne. Est-ce que justement cette souplesse qu'appellent de leur vœu en particulier beaucoup de représentations patronales, c'est-à-dire en disant il faut descendre au plus bas, connaître le mieux possible l'entreprise pour pouvoir justement négocier des accords, vous êtes d'accord avec cela ou est-ce que vous pensez aussi qu'il faut un cadre plus national, plus global comme l'appel de ses vœux Éric Pérez?
Moi, je suis tout à fait ouverte et à l'écoute d'un cadre qui soit un cadre clair et qui puisse laisser suffisamment de flexibilité à chaque organisation dans la prise en compte de ses spécificités et du fonctionnement qui lui est propre. Donc, je pense que toutes les entreprises sont alignées sur le sujet et vraiment opérer dans le cadre d'un dialogue social qui soit le plus apaisé possible, mais nous laisser la possibilité, nous qui sommes bien conscients des situations individuelles et professionnelles dans nos organisations, de pouvoir aussi avoir une perspective de souplesse.
Et une marge de manœuvre, c'est ce que vous voulez dire. Mais donc un cadre le plus vaste possible pour qu'à l'intérieur les négociations puissent se dérouler, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que ces négociations soient, que ce cadre soit le moins contraignant possible. Il existe, mais qu'il permette à chacune des entreprises de s'adapter, c'est ce que vous voulez dire?
Effectivement, un cadre qui permette à chaque entreprise de s'adapter, qui soit pas trop restrictif en matière de cadre réglementaire et juridique, mais qui vienne quand même préciser un certain nombre de points. On a notamment parlé des accidents de travail précédemment. Ça fait partie de ces sujets un petit peu zone grise pour lesquels il est extrêmement compliqué pour l'employeur de pouvoir s'y retrouver. On sait que l'accident de travail qui survient en télétravail peut être considéré comme un accident de travail. Par contre, c'est l'employeur qui est responsable de la sécurité d'un lieu dont il ne le maîtrise pas. Donc, c'est pour vous donner un petit peu un exemple de certaines ambiguïtés. Donc, justement, le cadre et les négociations devraient pouvoir venir éclairer, apporter une information précise sur certains de ces sujets qui sont des sujets zone grise, mais laisser à la possibilité aux entreprises de pouvoir effectivement avoir une marge de manœuvre et suffisamment de souplesse dans la mise en œuvre du télétravail dans leurs organisations.
Oui, donc et Pascal Loquet qui est tout de même, on voit bien quand même que quand on entre dans la précision de cette discussion et de ces négociations potentielles justement entre employeurs et salariés, eh bien on a beaucoup de questions qui se posent. On l'a évoqué tout à l'heure, la question de la surveillance, mais aussi ne serait-ce que de savoir quel est un poste, qu'est-ce qu'un poste éligible, qu'est-ce qu'un poste télétravaillable par exemple. Il y a des discussions, les salariés par exemple ne voudraient pas ou au contraire voudraient être en télétravail et on pourra dire au niveau de l'entreprise, ben non, ça n'est pas un poste télétravaillable, par exemple, Pascal Loquiec.
Oui, tout à fait. Alors, peut-être deux choses. La première chose, c'est que la jurisprudence, qui a un rôle évidemment central en droit, a déjà permis de fixer un cadre sur le contrôle. En fait, il y a trois exigences lorsque l'entreprise met en place un dispositif de contrôle. Par exemple, on a évoqué le keylogging ou alors le contrôle à distance des caméras de l'ordinateur. Il faut qu'il y ait une information individuelle du salarié. Il faut qu'il y ait une consultation du comité social et économique. Mmh. Et il faut surtout, c'est le plus important, que ce soit pertinent et proportionné. Hein, donc le droit déjà va empêcher de mettre en place des dispositifs qui n'ont absolument aucun lien avec le travail du salarié. Alors effectivement, on a un besoin de précision. Par exemple, le Code du travail, qui a repris une bonne partie de l'année de 2005, exige que l'accord collectif ou la charte évoque un certain nombre d'éléments. Donc, par exemple, le Code du travail exige que soient prévues les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail. Mais rien n'est dit. Il n'y a aucun contenu dans le texte. On évoque simplement l'obligation de traiter de ce thème-là. Par exemple, il faut traiter des conditions d'acceptation du salarié. Mais les conditions d'acceptation du salarié, comme je viens de vous le dire, peut-être c'est un délai de réflexion qui doit être posée par le Code du travail. Sur les questions de responsabilité, vous avez absolument raison, c'est une difficulté. Hein. La loi, et ça c'est absolument inévitable, prévoit que les règles de santé et sécurité qui sont applicables dans l'entreprise sont applicables de la même manière en télétravail au domicile du salarié. C'est vrai que c'est compliqué. Ça, d'ailleurs, ça amène au développement de diagnostics. Mmh. Et maintenant, on a des diagnostics télétravail que les entreprises mettent en place parce qu'elles sont effectivement responsables de la sécurité.
Ça veut dire qu'on envoie des représentants de l'entreprise chez soi. Donc, on découvre aussi l'environnement de travail de chacun d'entre nous, ce qui peut aussi poser problème parfois parce qu'il y a une sorte de confidentialité de son lieu d'habitation, j'imagine, non ?
Absolument, absolument. Le télétravail va se heurter au respect du droit du salarié à sa vie privée. Effectivement s'opposer à la venue d'une personne dans son entreprise. Donc, effectivement, on a des problématiques qui n'existent pas dans l'entreprise parce qu'évidemment, un salarié ne peut pas s'opposer
à ce qu'on vient de voir son bureau.
L'employeur visite l'entreprise.
Oui. Éric Pérez, par exemple, on a vu récemment des économistes de la Deutsche Bank, qui ont d'ailleurs été immédiatement contredits par vos collègues de la CGT cadre, qui imaginaient de taxer les télétravailleurs au prétexte que c'était souvent des télétravailleurs plutôt cadres et plutôt avec des salaires élevés, pour pouvoir redistribuer cette taxe, puisque de toute façon les télétravailleurs ne paieraient pas les transports, etc., resterait chez eux, etc. Et ça permettrait de redistribuer cette taxe aux salariés qui sont obligés, eux, d'aller au travail sur site, par exemple. Est-ce que ces inventions, pourrait-on dire, d'économistes de la Deutsche Bank font partie des discussions qui peuvent, à un jour ou l'autre, arriver dans une négociation comme celle-ci ?
Je n'espère pas, parce que si ce type d'innovation devait arriver sur la table, je ne suis pas certain qu'on puisse aboutir à un accord. Non.
Mais par exemple, ça pose la question du maintien des cantines d'entreprise, par exemple. Si on a la moitié des salariés qui sortent, évidemment, pour beaucoup des cantines, ça va être très difficile de continuer à vivre, et ça va poser des problèmes justement pour pouvoir avoir une rentabilité de ce type de prestations à l'intérieur des grandes entreprises.
Mais il y a deux points pour répondre très, très, très brièvement à votre question sur la question de la taxe. Non, alors c'est assez marrant qu'on puisse taxer les télétravailleurs. Encore une fois, on imagine qu'ils bénéficieraient d'une sorte de privilège alors que c'est encore une modalité. Et faut-il le préciser que le travail que nous engageons, cette négociation, le télétravail est sur la base du volontariat. Il ne s'agit pas que ce soit qu'on impose de manière unilatérale, sauf cas exceptionnel.
Et donc la conjoncture exceptionnelle que nous connaissons.
Voilà, que nous connaissons. Dans l'autre cas, c'est une modalité, on ne peut pas l'imposer. Et au contraire, il faut que ce soit quelque chose qui vienne de la part du travailleur pour dire, voilà, je souhaite éventuellement bénéficier, encore une fois, avec des modalités. Ça peut être 2 jours par semaine, mais ça peut être des jours occasionnels dans l'année. Donc ça, c'est un premier point. La question de l'éligibilité, ça a été dit. On peut imaginer que des personnes puissent ne pas avoir un poste qui soit, entre guillemets, télétravaillable. Mais on peut très bien imaginer qu'une partie des activités le soit. Ce qui pose la question, effectivement, de repenser l'organisation du travail et d'amener le management à une culture du management. Mmh. Et je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de l'interlocuteur tout à l'heure. Il faut que dans cet accord interprofessionnel, c'est pas en tout cas notre souhait, il faut laisser de la marge de manœuvre au niveau des branches également et des entreprises. Il s'agit vraiment de fixer des grands principes. Et puis, je voudrais dire quand même que de la part de la Deutsche Bank ou de la part de certains employeurs de vouloir taxer d'une certaine façon, enfin, si c'est le cas, mais certains télétravailleurs, mais il faut pas
c'est
oublier
un projet, hein, ça
que
pas,
les
c'est,
études.
C'est, voilà, c'est,
ouais,
c'est
oui, juste, oui, oui. Mais les études montrent également que les télétravailleurs sont beaucoup plus productifs. Alors, sans doute, y a-t-il des explications en termes d'analyse psychanalytique, de surinvestissement de la sphère professionnelle, mais très souvent, lorsque vous avez un télétravail ou des conditions qui sont adaptées, c'est plutôt un projet gagnant-gagnant. Et il y a effectivement, pour le coup, même des fois des gains pour l'entreprise. Donc la question pourrait se poser aussi du côté des salariés, comment répartir les gains de productivité, notamment par rapport éventuellement à des primes ou éventuellement à des augmentations salariales ou à une politique. Ouais. Mais le télétravailleur également, et certaines entreprises aussi, et c'est ça le risque, profite aussi de la question du télétravail, peut-être aussi pour en faire un projet qui n'en est pas un, pour diminuer les mètres carrés et payer beaucoup moins cher, par exemple, certains locaux.
Évidemment. Aïcha Goudiabi, sur ces discussions, justement, de qui tire parti du télétravail ? Est-ce que c'est l'entrepreneur ou est-ce que c'est le salarié ?
Ben, je crois qu'en fait, le télétravail idéal, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Et c'est ce qui permettrait à terme d'avoir les deux parties qui en bénéficieraient. Le collaborateur pour des enjeux de qualité de vie au travail, pour ben, pouvoir...
ne pas prendre les transports de très longue durée, par exemple, comme c'est souvent le cas dans des grandes villes.
La réduction des transports, que ce soit des transports en commun ou l'utilisation de sa voiture, il y a des enjeux environnementaux qui sont également liés à cela. Je pense qu'il y a aussi l'équilibre vie professionnelle, vie privée, qui est également extrêmement important, qui sont des enjeux qui sont essentiels aujourd'hui dans la vie, dans le cycle de vie du collaborateur. Et puis pour l'organisation également, il y a des temps de concentration qui sont importants, il y a une organisation et des modes de travail. Il faut que les organisations apprennent à vivre avec leur temps aussi. Moi, je suis persuadée que le télétravail, c'est une option, une initiative durable, une option de long terme, et qu'il va falloir que les entreprises puissent le mettre en place, si cela n'est pas encore le cas, dans une période normale, de la meilleure façon.
Mais on a bien vu, Aïcha Goudiaby, tout de même, que effectivement après ce moment un peu forcé, qui était le moment du premier confinement, et puis avant ce deuxième moment un peu forcé, qui est le moment du reconfinement, eh bien, il y a eu tout de suite un retour à des pratiques plus anciennes au sein des entreprises, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas aussi largement accorder le télétravail dans les entreprises en général, puisqu'on considérait effectivement que le normal, c'était de revenir au siège de l'entreprise.
Il y a cet aspect-là, mais je dirais qu'il y a un autre aspect aussi. C'est le fait que l'entreprise n'est pas qu'un lieu de production, c'est aussi un lieu de vie. Et on parlait du rapport au travail. Il va falloir le repenser, redonner du sens au travail, et donner du sens au travail à domicile. Donc tout ça, je pense, ce travail et les négociations en cours, je l'espère, viendront apporter un cadre et un éclairage sur ces sujets-là.
Pascal Lauquiec, sur ce point et plus généralement sur comment sortir d'une négociation de crise pour arriver à une négociation qui va devoir normalement dresser un cadre pour des périodes qui seront, on l'espère, plus tranquilles que celles que nous connaissons ces temps-ci.
Bon, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il va falloir distinguer vraiment deux types de télétravail et que ça doit vraiment être clair dans le futur accord. Le télétravail normal hein, et le télétravail
exceptionnel.
Contraint, exceptionnel, avec un cadre qui soit beaucoup plus strict sur le télétravail contraint. Voilà, c'est un point qui me semble vraiment, vraiment important. Après, je crois que c'est un deuxième point qui me semble important. On a beaucoup parlé alors des travailleurs de première ligne. Je crois qu'il faut aussi qu'on pense aux travailleurs qui ne sont pas en situation de télétravail. C'est paradoxal, on parle beaucoup du télétravail,
mais finalement,
ce débat nous a fait oublier les difficultés que peuvent avoir les autres travailleurs. Donc je crois que c'est un deuxième point important. Et le dernier point, et là je reviens aux télétravailleurs, vous savez, il existe ce qu'on appelle un droit à la déconnexion dans le Code du travail. Je crois qu'il faut consacrer, et c'est très important, un droit à la connexion. Alors là, je ne parle pas connexion numérique, je parle connexion à la
physique.
Connectivité de travail.
Ouais, c'est ça.
Voilà, la connexion physique. Il ne faut pas que parce qu'on est en télétravail, on soit complètement coupé de la collectivité de travail. Cela passe notamment par la création d'espaces de discussion physiques ou numériques, mais pas forcément que numériques. Hein, que le salarié qui soit en télétravail ne soit pas enfermé à son domicile. Parce que je ne crois pas que le domicile puisse être le lieu normal de travail. C'est l'entreprise, le lieu normal de
Merci
travail.
Merci beaucoup, Pascal Lauquiec. Un dernier mot très bref, Éric Pérez, sur les espoirs que vous portez dans cette négociation. Mais il reste 20 secondes. Donc, allez-y très rapidement.
Oh, mais écoutez, en 20 secondes, nous aurons jusqu'au 23 novembre et j'espère qu'on aura sans doute une journée supplémentaire, on verra de plénière. Mais moi, je suis confiant parce que je considère aujourd'hui, et Pascal Lauquiec a raison, il ne s'agit pas aujourd'hui de négocier la situation que nous connaissons qui n'est pas du télétravail, mais l'organisation du travail télétravaillé est tout à fait possible à condition de remettre du collectif là où prévaut l'individuel. Il faut surtout éviter de couper le salarié de son lieu de travail, de ses collaborateurs, de manière à ce qu'effectivement ce soit quelque chose qui soit gagnant-gagnant. Mais pour ça, il faut un cadre collectif, il faut des règles précises pour que les entreprises et les branches puissent mettre en œuvre un télétravail qui soit effectivement porteur d'épanouissement pour les salariés et effectivement d'efficacité et d'engagement pour les entreprises.
Merci à vous, Éric Perret. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de FO Cadre. Aïcha Goudiabi était avec nous, directrice RH au laboratoire pharmaceutique Septodon et pilote d'un comité des RH du club des entreprises de taille intermédiaire pour l'Île-de-France. Et Pascal Lokiek, co-auteur avec Éric Ayer et Dominique Méda d'Une autre voie est possible chez Flammarion. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Imane Gilles, Fanny Richer, Rémi Baille et Hugo Boursier. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Roumabadi. À la réalisation, Félix Levaché. Dans le temps du débat demain, au Karabakh, qui a gagné? Dans 3 minutes, vous allez retrouver Arnaud Laporte pour Affaires culturelles. Ce soir, en compagnie du plasticien Laurent Grasso. Vous écoutez France Culture, il est 19h.